Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfoisse.
Bonjour, Daniel Morfoisse, en votre compagnie pour le Grand Orient de France. Je reçois ce matin Patrice Morla, docteur en histoire, spécialiste de l'Indochine et de la colonisation, et auteur d'un ouvrage important et original qui a pour titre « La République des Frères » aux éditions Perrin, le Grand Orient de France de 1870 à 1940. Important par le volume, 800 pages si je ne me trompe, et par la masse de documents traités, mais aussi original dans la mesure où votre travail fait une large place à ce que vous nommez la République impériale, et nous reviendrons sur ce terme, cet oxymore désignant la dimension coloniale de la Troisième République. Patrice Morla, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit un ouvrage que j'ai qualifié d'original, non pas seulement pour être sympathique et agréable avec mon invité, mais parce qu'il a cette originalité de faire ce que ni les ouvrages historiques écrits par des maçons, ni les ouvrages historiques écrits par des profanes ne font, c'est-à-dire parler de la démarche maçonnique. Vous avez fait l'effort de comprendre la démarche maçonnique et vous ne restez donc pas extérieur ou dans l'évidence comme vos confrères historiens sur le sujet. En quoi était-ce indispensable à vos yeux ?
D'abord, actuellement, j'entame un nouveau cycle de travaux sur la pensée et les mythes dans la Troisième République. Et naturellement, le Grand Orient de France avait une part principale et fondamentale et centrale dans ces travaux. Je pense qu'il est impossible de comprendre l'action maçonnique des frères du Grand Orient sans aborder l'aspect de travail spirituel intérieur, les rituels, les symboles, le travail du maçon sur lui-même. Et en fin de compte, donc, on peut trouver ça dans l'acronyme de Vitriol, c'est-à-dire de séparer l'action, de séparer l'épais du subtil. Donc, j'ai mis du temps à comprendre. C'était un peu un monde schizophrénique. C'est-à-dire, d'un côté, on était dans les rituels, dans les symboles, dans l'autre, il y avait une action politique très intense. Je me demandais où j'allais, mais en fin de compte, à un moment donné, un déclic, j'ai compris que pour changer, bien changer l'extérieur, il fallait changer l'intérieur. Donc pour changer l'intérieur, il y avait tout un travail intérieur que Georges Bataille qualifie de révolution intérieure et qui est très intéressant. Donc c'est pour cette raison que j'ai tenu absolument à travailler sur les mythes et les symboles et les travaux des maçons pour mieux percevoir vers quoi ils allaient dans l'action, dans la société.
Dans votre travail, vous défendez l'idée que l'action des maçons du Grand Orient de France est tournée vers la réalisation de la cité idéale, ce que vous nommez l'oratoire du progrès, si je ne me trompe.
Oui, donc c'est naturellement la suite du travail intérieur, c'est-à-dire une fois qu'on a travaillé à l'intérieur, on pense la réalisation d'une œuvre extérieure de transformation pour améliorer le sort des êtres humains. Donc c'est la suite naturelle du travail intérieur. Elle participe aussi à la mutation interne de l'ordre. C'est-à-dire, sur le plan religieux, le Grand Orient va progressivement passer d'un déisme obligatoire à la référence au grand architecte de l'univers, le fameux Gadlu, pour justement éliminer progressivement son déisme en 1877, c'est-à-dire l'article premier ne fait plus mention du Gadlu, mais fait mention du Grand Orient de France. Et puis, une mutation interne aussi.
En 1877, il n'y a plus d'obligation de croire en un dieu créateur et en l'immortalité de l'âme. C'est ça le changement.
C'est ça. Donc il y a de nombreux convents, un travail énorme de discussions internes qui débouchent justement en 1877 sur la suppression de la référence au Gadlu. Mais également, il y a toute une mutation qui se produit sur le plan politique et qui pousse, le Grand Orient, l'obédience d'une société de bienfaisance en une une société philosophique, puis une société de réflexion politique et d'action politique. Voilà, donc il y a toute cette évolution. Alors à ce titre, il faut signaler que le Grand Orient n'est pas, comme certains peuvent le penser, complètement hermétique, secret, fermé, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. En fin de compte, beaucoup d'idées de la société pénètrent à l'intérieur du Grand Orient, sont travaillées dans les convents,
et ces idées,
dans les loges, et puis dans les convents, et en fin de compte, c'est pas simplement, comment dire, le fait d'idées profanes qui entrent, comme on va le voir tout de suite après avec la morale laïque, mais c'est pas simplement des idées profanes qui entrent amenées par des profanes, mais c'est des idées qui sont amenées par des frères maçons qui eux-mêmes sont engagés politiquement, d'abord le Parti radical, ensuite le Parti socialiste. Alors, ce travail de pensée de la cité idéale, en fin de compte, s'appuie sur la morale laïque. Une morale laïque qui elle aussi est alimentée par les travaux de Auguste Comte, le positivisme, mais également d'Émile Durkheim, tous ses travaux sur la pensée et les peuples primitifs, mais aussi de Berthelot, le but étant en fin de compte de remplacer le religieux par la science, hein, comme on dit, aller de Irène Minguy disant l'initiation c'est le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Ça illustre bien, je pense, cette démarche de ne plus faire reposer les choses sur le religieux ou sur de l'abstrait, mais ou du fanatisme, mais sur la science. Alors bien évidemment, sur cette base, il va s'attaquer à des sujets comme les retraites, le chômage, les loyers, les sociétés mutualistes, la réflexion sur le capitalisme, faut-il ou pas supprimer le capitalisme. C'est des réflexions qui vont revenir régulièrement dans les travaux des loges, des planches, des travaux de plusieurs dizaines de pages sur la réflexion, sur le fait faut-il ou pas conserver le capitalisme, vers quelle société on veut aller. Et donc ça va... Alors, l'autre aspect de l'instruction publique, c'est en fin de compte instruire les enfants pour permettre d'une part un ascenseur social, c'est-à-dire que les postes importants de la République ou de la société ne doivent pas être uniquement réservés à une élite, mais aussi chaque enfant du peuple peut aussi accéder par l'instruction publique. Et l'autre aspect de l'instruction publique, et je terminerai là-dessus, c'est qu'en fin de compte, c'est pour instruire pour la paix.
C'est aussi une voie d'émancipation que d'instruire, c'est-à-dire permettre à chaque individu, même s'il n'y a pas de mobilité sociale à tout coup, mais d'être libéré de la tutelle des idéologies, de l'Église, des notables, et en quelque sorte, c'est l'idéal de penser par soi-même qui se traduit là-dedans. Alors, dans votre travail, la dimension sociale, la République, la construction de la République sociale est tout à fait essentielle. Vous l'avez déjà dit, mais la laïcité et la dimension sociale, ce sont les apports des frères du Grand Orient de France à cette République.
Absolument, c'est-à-dire c'est pas les frères qui fondent la première République de 89, 90, 91, 92, ni celle de 1870, c'est Adolphe Thiers et d'autres. Mais en fin de compte, eux apportent une pierre à l'édifice qui est centrale. Ils mettent sur pied le principe de la République laïque et de l'instruction publique, la République laïque, et en fin de compte, les lois sociales, le travail sur les lois sociales. Voilà. Donc ils vont aussi beaucoup travailler sur la paix. C'est-à-dire qu'un des buts de l'instruction, c'est que les enfants, il faut leur donner le sens, le sentiment, l'importance de la paix. Et à ce titre, là, je dois souligner que le Grand Orient a joué un rôle fondamental pour la défense de la paix. Il a subi les guerres, bien sûr, il pouvait pas faire autrement, mais il a combattu pour défendre la paix. C'est ce qui fait que bien avant 1914, il a soutenu les idées d'institutions mondiales faites pour gérer les conflits. C'est-à-dire, il faut pas arriver au conflit, il faut pas arriver à la guerre. Et on doit toujours trouver le moyen d'éviter la guerre. C'est-à-dire, on doit toujours trouver le moyen de parler, de s'entendre. Et ça va déboucher avec les propositions de Woodrow Wilson après la guerre sur la création de la Fondation fédération de la SDN, et les francs-maçons de Grand Orient va soutenir très fortement la SDN, d'où les traces dans les archives de sa déception lorsque la SDN va échouer. Quoi.
Oui. Alors je l'ai dit, vous utilisez une expression, parce que c'est aussi l'originalité de votre travail, une expression qui est étonnante, qui les qualifiait d'oxymores, qui a l'air d'être contradictoire, que cette expression de république impériale. Qu'est-ce que vous entendez par république impériale ?
C'est-à-dire, pour moi, c'est la référence à Rome, la période antique, Rome. Rome est une république qui se dote d'un empire. Et la référence à Rome reviendra souvent, d'ailleurs, dans la Troisième République et dans l'Empire. Donc, c'est en fin de compte une république qui se dote d'un empire. Donc, une république impériale.
Non, mais je crois qu'en effet, c'est clair. C'est simplement que cette expression n'est pas courante. Je crois qu'il faudrait, il nous reste peu de temps, mais en arriver à ce qui est essentiel dans votre travail, dans votre réflexion, dans ce que vous avez exhumé comme archive, et que je désignerai d'une manière un peu générale, globale, sur le rôle des francs-maçons du Grand Orient de France dans l'expansion coloniale, dans ce mouvement colonial qui caractérise la Troisième République, puisque... À part l'Algérie qui était colonisée antérieurement, toutes les autres colonies, si je ne me trompe, vont être constituées sous cette Troisième République.
Alors, en fin de compte, paradoxalement, il s'agit de l'ajout, de la multiplication d'actions individuelles, d'entreprises individuelles de francs-maçons comme Gambetta, Ferry, Braza, Chasseloup-Loba et beaucoup d'autres. Mais en fin de compte, ce sont des entreprises individuelles qui ne font pas référence à un appel à la colonisation lancé dans les convents ou dans les loges ou au Conseil de l'Ordre ou tout ça. Donc à nul moment, on voit un appel à l'expansion coloniale.
La maçonnerie n'est pas colonialiste.
Non. Non, pas du tout. Elle gère ce qui existe. Comme il y a des colonies, elle va essayer d'améliorer le sort de la colonisation, quoi.
Mais comme, et vous avez cité quelques-uns des grands noms, comme très souvent on retrouvait des maçons dans le cadre des responsabilités ou des politiques coloniales, on avait tendance à faire cet amalgame. Donc c'est une idée extrêmement intéressante, forte.
Bah oui, c'est-à-dire que cet amalgame pour la colonisation, on peut le faire aussi pour la politique en métropole. C'est-à-dire il suffit de penser que tel ministre ou tel président est franc-maçon pour qu'automatiquement ça soit la franc-maçonnerie qui soit derrière, alors qu'en fin de compte il s'agit d'entreprises et d'individuels, quoi. Donc en fin de compte ce qui importe pour les francs-maçons qui sont aux colonies, c'est de faire entrer la République dans les colonies, c'est-à-dire que tous les frères, tous les Français, tout le monde, même le plus possible, puissent bénéficier des lois libérales de la métropole. Et ça, c'est un énorme travail parce qu'il y a un blocage au niveau des lois.
Donc il y a une forme de progressisme des maçons dans les colonies et des loges qui sont créées dans les colonies.
Voilà, c'est-à-dire que les loges, au départ, ne sont pas créées pour soutenir la colonisation, mais au départ, les loges sont créées pour permettre aux frères de continuer leurs travaux maçonniques, d'avoir un temple et de pouvoir continuer leurs travaux, de se réunir et tout ça. Mais en fin de compte, les loges coloniales existent dans une cité coloniale, dans un milieu colonial, et bien évidemment, ils ne peuvent pas, comme en métropole, rester centrés sur eux-mêmes, et automatiquement, ils vont travailler aussi sur le milieu ambiant. Donc ils vont observer, ils vont intervenir auprès des gouverneurs généraux, des résidences supérieures, des gouverneurs, mais aussi ils vont faire des planches, des morceaux d'architecture qu'ils vont envoyer dans les convents, qui seront travaillés dans les convents, après renvoyés dans les loges, et renvoyés et travaillés au convent. En fin de compte, on peut dire qu'avant 1914, le Grand Orient de France n'est que très peu motivé par les questions coloniales. C'est seulement à partir de 1918, à partir du moment où son influence va régresser au sein de la métropole avec l'Union Sacrée, la Chambre Bleu Horizon, les rétablissements des relations diplomatiques avec le Vatican, que véritablement le Grand Orient, lors des différents convents, vont massivement s'intéresser à l'évolution de l'Empire, au sort des colonisés, notamment sur les femmes, notamment sur les métisses, mais aussi de la réflexion pour l'évolution des populations colonisées vers plus de participation, de collaboration, de pouvoir. Mais ils n'iront pas jusqu'à la réflexion sur l'indépendance des colonies. Parce qu'ils pensent qu'en qu'en fin de compte, les personnes qui sont colonisées doivent par eux-mêmes gagner la liberté. On ne peut pas donner la liberté, on doit la gagner par soi-même. Pour cette raison, les frères dans les loges coloniales seront assez réservés par rapport... voilà.
Et puis on l'oublie parfois, les mouvements d'indépendance étaient nationalisme, et le nationalisme n'était pas la tasse de thé essentielle des francs-maçons du Grand Orient de France.
Non, bien sûr que non. Les frères sont totalement opposés à tout ce qui est nationalisme. Nationalisme, c'est la guerre, comme disait François Mitterrand. Et en fin de compte, ils sont très opposés au nationalisme. Mais ils sont opposés aussi aux extrêmes. Ils sont opposés au bolchevisme, ils sont opposés au fascisme. Et ils pensent qu'en fin de compte, il doit y avoir une évolution des populations. On peut dire que les loges coloniales du Grand Orient sont très alignées sur les positions du l'automne Albert Sarrault, qui lui-même en 1921 va déterminer un plan de développement de l'Empire, et dans lequel il fait référence à la notion des arrière-petits-neveux. Les arrière-petits-neveux seront ceux qui pourront accéder à l'indépendance dans un cadre mondial français, un peu comme le Commonwealth.
Très bien, ben merci Patrice Morla. Un mot quand même, l'automne c'est un louveteau, et c'est donc quelqu'un qui n'a pas été initié, mais qui est enfant en général de maçon et qui a subi une cérémonie qui l'a éclairé un petit peu sur les mystères de la franc-maçonnerie, et qu'on vend, même si nos auditeurs, j'en suis sûr, sont déshabitués, qu'on vend sont les assemblées générales du Grand Orient de France. Patrice Morla, merci encore. Je rappelle le titre de votre livre, La République des Frères, ces 800 pages ne doivent pas faire peur, parce qu'il y a des tas de choses passionnantes, c'est très agréable à lire, des choses passionnantes, originales, et c'est un angle de vue qui est unique, je crois, dans les ouvrages d'histoire de la franc-maçonnerie. Il me reste à espérer vous retrouver le premier dimanche du mois d'octobre, probablement en compagnie du grand maître du Grand Orient de France. Bastien Varigaud était à la technique, Dany Journeau à la réalisation. Bon dimanche !